Bonjour Gérard Leclerc.
Bonjour Jean Messignac.
Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste à un hebdomadaire France catholique. Vous venez de publier deux livres, Jean-Paul II, le résistant chez Bartillat, dont nous avons déjà parlé en septembre, et chez Fayard, Pourquoi veut-on tuer l'Église ? C'est un livre fort qui aborde quelques points douloureux de la vie de l'Église en France. Monseigneur Gaillot, Duquesne, et aussi sur un plan beaucoup plus général, Droverman et Jean-Paul II, Explorateur de la vérité. Alors, nous allons, si vous voulez bien, nous retrouver pendant 3 semaines. Alors d'abord, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Pourquoi ce titre ?
Je sais bien.
Pourquoi aujourd'hui ? Que vous dites dans l'avertissement ?
Il est délibérément provocateur, ce titre. Mais je dirais qu'il faut le comprendre à une sorte, dans une sorte de référence psychanalytique, à une profondeur psychanalytique. Je ne lance pas des accusations contre les personnages dont vous...
Enfin, vous êtes frontal, quand même.
Dont vous venez de parler, oui.
Oui, mais vous n'êtes pas polémique, mais vous êtes frontal.
Je pense, si vous voulez, que dans toute cette affaire, il y a des enjeux extraordinairement graves.
Je crois.
Et donc, ça n'est pas une aimable conversation de salon, mais ça met en cause des choses les plus profondes de l'homme, et à cette profondeur-là, eh bien, il peut y avoir des thanatos qui est présent, hein, comme Freud l'a montré. Et puis en même temps, si vous voulez, pour moi, c'est une figure du combat spirituel dont je ne me retranche pas. Parce que le problème du bien et du mal, il nous traverse tous. Donc, quand je parle du « on », pourquoi veut-on tuer l'Église, je ne m'exonère pas de alors, ce « on », parce que voilà. Moi aussi, je suis dans le combat.
Alors, on va revenir au titre mot à mot, mais vous dites, dans votre avertissement, que vous pensez que les attaques, en particulier contre le pape en ce moment, ce ne sont pas des attaques contre un personnage, une personne ou une autorité, mais que c'est une attaque insidieuse contre l'Église et contre le message chrétien fondamental.
Oui.
C'est quelque chose qui dépasse...
Si vous voulez, apparemment, maintenant, on traite l'Église comme on traite n'importe quel parti politique ou n'importe quel homme politique. Au travers d'un scandale, on va le déstabiliser. Alors, superficiellement, l'Église semble traiter au régime commun. Mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce que quand on met l'Église en cause, on met en cause sa conviction à elle, sa doctrine, sa conception de l'homme et de la vie, oui.
Et vous dites que les affaires se succèdent et qu'elles sont toutes traitées avec un esprit de système anti-catholique, à peu près systématiquement.
Oui.
Remarquez, c'est vrai, des médias, il y a que ce qui va mal qui les intéresse.
Oui, bien sûr, mais comme journaliste, moi j'ai assisté à une sorte d'évolution curieuse. Quand j'ai commencé à m'occuper d'informations religieuses au quotidien de Paris, au moment du voyage du pape à Paris en 1980, je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème avec mes collègues, bon, même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et puis, au fur et à mesure, des situations conflictuelles sont apparues. Je crois que 89 a été le tournant. Et puis, tout a été en se durcissant. Et il y a maintenant une hostilité à l'égard de l'Église qui est évidemment manifeste aujourd'hui avec le voyage du pape. Toutes les choses que l'on a vues autour du pape, la contestation du pape, nous montrent qu'il y a eu un énorme durcissement de ce point de vue.
Alors, le titre, vous l'explicitez dans une introduction, mot à mot, pourquoi veut-on tuer l'Église, mot à mot ? Pourquoi ?
Pourquoi c'est surtout ça qui me retiendra ? Parce que à travers les différents dossiers que j'analyse, je mets en place le fond des choses. Le titre, il met en cause une responsabilité éventuelle. Qui veut tuer l'Église ? Je dis, c'est pas une personne particulière ou des personnes particulières, c'est un problème métaphysique, si vous voulez. J'ai dit psychanalytique, mais métaphysique aussi.
Au moment de l'affaire Droverman, on a parlé de torpille,
Droverman,
un vocabulaire belliqueux.
Droverman, c'est particulier.
On en reparlera tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y a un affrontement direct.
On en parlera tout à l'heure.
Une volonté de mort de l'Église.
Alors pourquoi, dites-vous, les gens, c'est pas très 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 net à définir, veut-on, est-ce qu'on veut vraiment ?
Ah, c'est ça tout le problème. Il y a une indétermination, parce qu'en même temps, on a les meilleures raisons du monde. Je dis même des raisons démocratiques et même chrétiennes. Les gens qui critiquent l'Église, ils ont les meilleurs. Ils se prétendent presque meilleurs chrétiens quand ils ne sont pas croyants que les chrétiens eux-mêmes. Donc, Il ne s'agit pas de suspecter a priori les intentions, mais il s'agit quand même de les interroger, non pas interroger telle personne particulière, mais interroger un petit peu ce fond de culture, cet inconscient culturel dont parlait Maurice Clavel, parce que il a un sens, cet inconscient culturel a un sens sur lequel les philosophes s'interrogent légitimement.
Vous insistez aussi sur le mot « on ».
Oui, vous savez, il y a Heidegger qui a fait, le philosophe Martin Heidegger a fait toute une critique du on, et moi-même je fais une critique du on, bien que l'employant volontairement, je dis que le on est aussi haïssable que le moi de Pascal, parce que c'est l'imprécision même. Qu'est-ce que c'est que on ? C'est un espèce d'amalgame invraisemblable, je ne sais pas, c'est la responsabilité évitée. C'est dire on, c'est éviter de s'en prendre à une personne, à une catégorie de personnes. Donc c'est une échappatoire, le on.
Vous dites exactement, c'est un sujet incertain.
Voilà, c'est un sujet incertain. Et je dis après, si j'utilise le on, c'est qu'il me faut bien un sujet pour marquer qu'il y a quand même dans tout cela une sorte de cohérence intellectuelle.
Et tu es.
Ah ben tu es, justement, c'est là où je cite Freud, qui dit que explicitement que l'homme est un tueur. Ça ne veut pas dire qu'il passe à l'acte, mais il y a en lui une tendance secrète qui fait qu'il faut toujours se méfier. Il faut avoir le soupçon. Il faut toujours avoir l'œil du soupçon et aller jusque là.
Alors, vous dites bien que vous n'en voulez pas aux personnes, que vous ne voulez pas être polémique, et dans ce « on », vous dites « il y a moi aussi, peut-être ».
Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas absent du combat spirituel. Les choses ne sont pas manichéennes. Il faut toujours revenir à la parabole de l'évangile, du bon grain et de l'ivraie. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va faire le partage du bien et du mal. Le Christ, le Seigneur, viendra pour cela, pour le dernier jugement. Donc nous sommes dans un état d'indétermination et c'est notre combat spirituel à nous tous.
Avant d'aborder alors vos dossiers, en particulier celui de Reverman dont nous parlerons tout à l'heure, vous évoquez la pertinence de l'Église en citant Newman, Kolakowski, et vous parlez de l'unité, de la continuité, de la cohérence du christianisme.
Et oui, parce que l'Église n'est pas n'importe quel objet d'exécration. Il faudrait savoir, quand on s'en prend à l'Église, à quoi s'en prend-on ? On s'en prend au pape, à un personnage, on s'en prend à une collectivité, on s'en prend à une organisation dont on peut faire la critique sociologique.
Une paroisse où on souffre, un curé qui vous déplaît.
Voilà, mais c'est pas... Bon, quand on aura dit tout ce qu'on voudra en termes d'analyse sociologique, etc., est-ce qu'on aura seulement parlé de l'Église ? Et moi je dis que Freud, pour encore le citer, considérait que la religion c'était ce qui était le plus... représentatif de l'homme dans ce qu'il avait d'essentiel.
Donc, sa lutte contre l'angoisse.
On ne peut pas éviter l'Église si on s'affronte à elle dans sa dimension de grâce, dans sa dimension de salut, je dirais, en employant un mot du philosophe polonais Kolakowski, sa dimension charismatique. Donc, quand on s'en prend à l'Église, on s'en prend à une institution sui generis, qui a sa cohérence qui est inassimilable à une autre institution.
Alors, vous avez une phrase là qui m'a beaucoup fait rêver, qui m'interroge beaucoup. Vous citez le philosophe anglais Gibbon qui écrit ou approfondir l'histoire, n'est-ce pas cesser d'être protestant?
Oui, ça c'est Newman. C'est Newman qui disait cela.
C'est à propos de Gibbon que vous dites.
Oui, parce que il avait Newman, vous savez, qui est passé de l'anglicanisme au catholicisme, était très frappé du désintérêt de son temps, de l'opinion des universitaires, disons, anglicans, par rapport à l'histoire du christianisme. Et pour retrouver l'histoire du christianisme, il fallait qu'il aille chercher les renseignements chez un athée,
oui,
chez un historien
athée.
Et il en concluait, voilà, avoir le goût de l'histoire, c'est être catholique. Pourquoi ? Ça, c'est
oui,
très important. C'est très important de comprendre cela. Eh bien, parce que le catholicisme pense que l'histoire de l'Église, c'est l'Évangile continué. Il n'y a pas de rupture, si vous voulez, il n'y aurait pas l'évangile tout seul au début, la Bible toute seule, et puis après on se débrouillait un petit peu, c'est que le Christ est venu instaurer le règne de la grâce, et ce règne de la grâce continue par l'Église qu'il a instituée.
Oui, c'est ce que
donc
vous dites.
L'histoire du christianisme, c'est très important, parce que c'est la continuité de la tradition, et c'est la fidélité à la parole de Jésus. Et qu'est-ce qui a ramené Newman au catholicisme? C'est qu'il a vu une continuité de tradition dans la fidélité intégrale à l'Évangile. Et c'est parce que l'Église est une autorité charismatique qui a reçu le don de l'Esprit-Saint pour être fidèle à l'Esprit du Christ au travers de l'histoire.
C'est-à-dire que depuis Clément de Rome à la fin du 1er siècle et dans sa lettre aux Corinthiens, et depuis Saint-Irénée ici, Ignace d'Antioche, il n'y a pas de rupture.
Non. Voilà. C'est ce que j'ai voulu montrer à propos de l'épiscopat, à propos de la doctrine de l'épiscopat. Dès les pères apostoliques, ceux qui succèdent immédiatement aux apôtres, toute la constitution de l'Église est fixée jusqu'à aujourd'hui. Et Vatican II, du père apostolique à Vatican II, il y a une cohérence totale.
Et bien, après une petite minute avec Vivaldi, nous allons parler de Droverman, qui est notre père de l'Église. Nous retrouvons Gérard Leclerc et son livre « Pourquoi veut-on tuer l'Église ?» qui paraît chez Fayard. Alors Gérard Leclerc, vous présentez 4 dossiers avec après une très longue conclusion. Ces dossiers sont Droverman, Duquesne, Gaillot, Jean-Paul II et Splendeur de la Vérité. Alors aujourd'hui, nous allons simplement parler du premier dossier, Droverman. Alors Droverman, dites-vous, c'est une régression pré-biblique.
Ah oui. Si vous voulez, j'ai essayé de faire un essai complet de mise en perspective de l'histoire personnelle de Droverman à travers son œuvre. Et j'ai constaté que cet homme avait changé de planète, d'une formation très classique, puisqu'il a été dans un séminaire, je dirais, au moment du concile, un petit peu avant et pendant le concile. Il a une formation extrêmement classique. C'était un étudiant brillant d'après ses condisciples de l'époque.
C'est un homme d'une immense culture.
Absolument. Il se trouve que progressivement, cet homme a été déporté dans un autre univers que je définirais comme ésotérico-écologico-païen, si vous voulez.
Mystique païenne.
Oui, mais qui est en rupture totale. Il n'y a plus de point commun, si vous voulez, entre le premier Droverman et le second. Il y a une rupture abyssale entre les deux. Et j'ai essayé de montrer pourquoi il y avait eu cette rupture.
Mais ce n'est pas une question de droit canon. C'est quelque chose. Il passe la mer Rouge à l'envers.
Absolument. Alors ça, bon, c'est un peu compliqué de raconter comment ça s'est passé, mais je peux donner le point de départ initial, si vous voulez, à mon sens, de
cette psychanalyse.
C'est la psychanalyse et c'est, comment dirais-je, c'est la perte de la mesure du sacerdoce chrétien. Du sacerdoce chrétien et catholique. Le jeune prêtre Droverman est envoyé dans une ville de cure, dans une petite ville allemande, là près de Paderborn, et là il se trouve en proie à un malaise qu'il définit très bien. Il a des tas de visites de gens qui viennent, alors ils sont des curistes, etc., puis en même temps ils viennent essayer de se guérir des maux de l'âme, et le jeune prêtre Droverman, je pense que sa situation ne lui est pas particulière, est en proie, je dirais, à des problèmes qu'il semble des montagnes. Et il se demande comment il va résoudre ses problèmes énormes avec ce qu'il a appris au séminaire. Et il dit, ma formation de séminaire m'a pas rendu apte à répondre à ces questions qui sont souvent d'ordre psychologique et qui demandent une psychothérapie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une formation en psychothérapie dans un curieux institut d'ailleurs. Il commence une analyse qu'il ne terminera jamais.
C'est-à-dire qu'il n'est ni psychanalyste vraiment, ni exégète vraiment, ni théologien vraiment. Vous dites à un moment donné, il est mythologue.
Oui. Si vous voulez, le problème, quand il rentre dans le ministère, quand il a fait cette formation à la psychanalyse, il essaye de faire une mixture, je dirais, entre son rôle sacerdotal et son rôle de thérapeute. Tony Anatrella, voyant ça, dit, mais il y a un problème déontologique, on est ou prêtre, ou thérapeute, ou psychanalyste. On ne peut pas être les deux à la fois, parce que la déontologie du sacerdoce et la déontologie de l'analyse sont deux domaines tout à fait différents et hétérogènes. Donc il va vouloir mélanger tout cela, et il va vouloir reformuler un sacerdoce en termes analytiques et psychanalytiques, et du coup, il est hors de la déontologie, pour dire les choses rapidement, de la déontologie du sacerdoce catholique. Et les choses vont s'empoisonner à mesure. C'est son regard sur l'écriture, d'abord sur l'écriture sainte, qui va s'en trouver modifié. Mais alors là, il passe de Freud à Jung, parce que Jung l'intéresse beaucoup plus, parce que Jung apparemment est plus proche des problèmes religieux. Il est hanté. Jung est hanté.
Il les évoque plus précisément.
Oui. Et alors, pour essayer donc de encore une fois de rapprocher le point de vue psychanalytique du point de vue théologique, il va prendre la médiation de Jung pour avoir un regard nouveau sur la religion et sur la Bible. Et du coup, qu'est-ce qu'il va distinguer dans la Bible? Eh bien, ce sont les images, les imagos, les fameuses imagos de Jung. Et donc les mythes.
Les mythes.
Et alors il va y avoir une régression, pas à pas, qui va l'amener à ne plus considérer la Bible et les évangiles comme une sorte de collection de mythes. Et ces mythes, il va les ranger, je dirais, dans la même catégorie du patrimoine mythologique universel.
Et au bout comme Prométhée.
Voilà, au bout de cela, Jésus égale une figure du patrimoine mythologique universel, comme Vishnu, comme Krishna, comme je ne sais quoi. Et alors, dans cette affaire, c'est la singularité du christianisme qui disparaît, et la singularité du christianisme en tant que religion historique. Il y a une haine de l'histoire chez Drewermann extraordinaire, qui s'explique peut-être par des raisons, je dirais, psychanalytiques, pourquoi il y a une pesanteur du passé et de l'histoire qui est peut-être insurmontable.
Même que dans certains cas, qu'il soit allemand, il y a quelque chose de très allemand dans sa démarche. Qui n'est pas celle de Renan.
Oui, ça moi j'en ai parlé, j'ai parlé de Drewermann avec des gens qui connaissent très bien la culture allemande et l'Allemagne actuelle. Ils ne sont pas du tout étonnés, ils me disent que les thèmes de Drewermann rejoignent toute une thématique actuelle qui est très présente chez les Verts allemands, chez les Grünen.
Oui, on y reviendra.
Oui, et dans des grands courants de la pensée, ce que j'appellerais du germanisme, du vieux germanisme.
Alors, en abandonnant cet enracinement historique, il se produit une espèce de dissolution de l'enseignement biblique, de l'enseignement biblique général.
Jésus n'a plus de consistance historique, et dans la mesure où il a une consistance historique, il n'existe plus, Jésus.
Non, mais Jésus n'existe plus, mais n'existe pas non plus le décalogue.
Ah, alors là, c'est l'autre problème grave, gravissime. En fait, c'est, à mon sens, c'est là où est le vrai problème.
La loi.
Le vrai problème de Drewermann, qu'il a exposé longuement dans des livres qui sont traduits en français en ce moment, c'est sa thèse de théologie qui s'appelle « Les structures du mal ». Oui. Comment pose-t-il le problème? Le problème, c'est le problème de l'angoisse. De l'angoisse qui travaille l'âme allemande. Et le problème est donc de trouver une sorte de thérapie à cette angoisse. Et ce que va dire Drewermann, c'est que le christianisme et le catholicisme, dans la mesure où il est attaché à la notion de péché, en particulier construire la notion de péché originel, mais aussi la notion de péché tout court, au lieu de soulager les hommes de leur angoisse, vont les accablent. En quelque sorte, la notion de péché accable l'humanité. Et alors, au lieu de voir que le péché, la révélation du péché, ça n'est qu'une des figures de la révélation du pardon et de la miséricorde, Drewermann va essayer de trouver une stratégie d'évitement du mal, de la responsabilité et du péché, et du coup il va avoir recours à la psychanalyse. Si le mal c'est ce qui est à l'origine de l'angoisse, il s'agit en quelque sorte de déresponsabiliser l'homme. L'homme n'est malheureux, non, l'homme n'est angoissé que dans la mesure où il a le poids de sa responsabilité sur les épaules. Et le poids de la responsabilité, c'est aussi le poids de la loi, du surmoi moral. Alors il s'agit de faire sauter tout ça à travers, et donc on va passer de Freud, si vous voulez, ou du dieu de la Bible, de la loi, au dieu maternant de Jung, au dieu qui materne, au dieu qui console, et le dieu père, le dieu de la loi, le dieu juif et le dieu chrétien va être évacué.
Il y a une évacuation du dieu chrétien, et c'est particulièrement du dieu chrétien d'abord dans l'entretien du Spiegel dont vous parlez, où il dit personne n'est sorti du tombeau, il n'a pas dissocié mon corps et ceci est mon sang parce qu'il était juif, l'ascension c'est s'élever au-dessus de l'angoisse humaine, enfin bon, il règle son compte de façon définitive avec le christianisme, mais il va plus loin dans l'immortalité des animaux, il met en cause la place centrale de l'homme dans la création.
Voilà. Il y a plusieurs strates, enfin il y a plusieurs problèmes qui cheminent en même temps dans l'histoire de Drewermann. Nous l'avons vu, il y a la dimension psychanalytique, il y a la dimension biblique, il y a la dimension historique. Dès lors que Jésus n'a plus d'existence historique, dès lors qu'il n'a plus il n'a plus porté sa croix,
il évacue complètement la croix.
Dès lors qu'il n'a plus porté sa croix, dès lors qu'il n'est plus ressuscité, dès lors qu'il n'est plus monté vers le Père, il n'y a plus de christianisme.
Oui.
Mais alors, Drewermann va jusqu'au bout. En définitive, de son itinéraire qui va l'amener à la deep écologie, à l'écologie profonde, parce que supprimer le sentiment de responsabilité, supprimer la notion du mal, etc., qu'est-ce que c'est en définitive ? C'est nier l'homme dans sa différence ontologique. L'homme se définit par sa liberté, par sa responsabilité, par son rapport au mal. Et si on a évacué cela, il n'y a plus d'homme. Et bien, Drewermann ira jusqu'au bout des conséquences. Il dira, dans le petit livre sur les animaux que vous citez, il dira qu'il n'y a pas de différence ontologique et éthique entre l'homme et l'animal. Et à partir de là, il va sombrer dans une espèce d'ensorcellement de la nature. La nature est la seule réalité. Il a une position d'idolâtre face à la nature. L'humanité n'est rien.
Qui n'est pas sans rappeler certains passages de Mein Kampf et la féerie des nuits de Nuremberg de la nature. Oui.
Absolument. Et certains thèmes spécifiquement allemands, que germaniques, que l'on retrouve dans les Nibelungen ou dans Wagner. Et c'est terrible en définitive. C'est terrible parce que l'humanité disparaît. On a tué le christianisme, mais on a tué l'humanité.
Alors nous allons terminer en parlant de Maurice Clavel. Maurice Clavel avait vécu dans l'angoisse et avait connu bien des psychanalystes et des psychiatres, et ce qui l'a sauvé, c'est le retour à la foi. La dépression est un mal de l'âme, disait-il, en attente de Dieu.
Absolument. Moi j'étais très frappé par la ressemblance en définitive de la problématique de Clavel et de Drewermann à l'origine. Clavel, qui est dans un état de dépression profonde et qui se promène de psychanalyste en psychanalyste, il trouve pas la solution. Il ne trouvera la solution que le jour où il rencontrera le père Caffarel, et là il va trouver la conversion. Bon, et alors pour guérir l'âme de son mal profond, la consolation du psychanalyste ne suffit pas. Il faut cette démarche de conversion qui rend à l'homme sa liberté. Et alors Et Claval était très en colère contre cette attitude d'évitement justement de la grâce et du salut à travers la psychanalyse.
Voilà, merci Gérard Leclerc. Je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi veut-on tuer l'Église? Il paraît chez Fayard et il coûte, je crois, 130 francs.
Tout à fait.
Merci. Alors à la semaine prochaine. Leclerc.
Bonjour Jean Messignac.
Alors je rappelle une fois de plus que vous êtes journaliste, que vous êtes l'éditorialiste de France Catholique et que vous publiez cet automne deux livres, Jean-Paul de Le Résistant dont nous avons parlé au mois de septembre et Pourquoi veut-on tuer l'Église dont nous parlons ces semaines-ci. Alors la semaine dernière nous avons évoqué Droverman. Et aujourd'hui, nous parlerons de deux autres dossiers, celui consacré à Jacques Duquesne et à Jacques Gaillot. Alors, Jacques Duquesne, dites-vous, veut faire un Jésus plausiblement correct.
Oui, c'est une expression évidemment un peu journalistique. On n'abandonne pas son métier comme ça. Bon, il y a des expressions qui sont là pour faire choc, mais je tiens à celle-là parce qu'elle me paraît significative. Prenons le mot plausiblement. C'est le mot clé. Le Jésus de Jacques Duquesne se veut plausible. C'est-à-dire, admissible. Enfin, plausible, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est plausible, ça veut dire qu'il est. On peut l'imaginer, bon, s'il est. Il est vraisemblable.
Un peu comme Renan.
Oui, mais
il reste dans la foi quand même.
Il est vrai, oui, c'est compliqué, mais si vous voulez, parce que Duquesne se veut à la fois, évidemment très sincèrement chrétien, moi je ne mets pas en doute sa bonne volonté, hein. Seulement il s'est lancé dans un problème considérable, qui est le problème exégétique et le problème critique. Et il l'a abordé à mon sens de la pire des façons. Je m'explique, si vous voulez,
oui.
en une phrase. Il a voulu tirer un personnage vraisemblable à partir de cette histoire invraisemblable. Et autre expression, il a voulu, arracher le Jésus des évangiles de ce qu'on peut appeler sa gangue, de son environnement théologique, pour essayer de trouver la véracité historique de Jésus. Et du coup, il s'est planté. Je ne sais pas si je me fais.
Oui. Il veut faire un Jésus qui soit de bon sens et acceptable pour les rationalistes.
Absolument. Si vous voulez, avec cette nuance que lui n'est pas complètement opposé au miracle, même s'il réduit considérablement tout ce qui est ce qui échappe aux critères rationalistes. Il ne croit pas à la virginité, à la conception virginale. Il croit pas à l'ascension. Enfin,
il croit à la résurrection.
Il croit à la résurrection, mais bon, c'est purement fidéiste de sa part. Et à mon sens, il y a une grosse erreur de méthode. Si vous voulez, le problème exégétique, il n'est pas nouveau. Bien sûr, il a été reposé.
C'est une vieille lune.
Oui, mais il a été reposé avec les armes modernes de la critique, dans la mesure où il ne faut pas évidemment faire l'impasse sur tout ce que la modernité scientifique a pu apporter à la connaissance de l'écriture sainte, comme instrument de philologique, comme découverte de l'histoire, comme découverte archéologique, etc. Tout ça a servi considérablement à la meilleure connaissance de la Bible. Mais le problème exégétique, il n'a pas été posé fondamentalement au XIXe siècle, ou même par Richard Simon ou par Spinoza au XVIIe siècle. Il existe dès les origines chrétiennes et il s'oppose clairement à un génie des origines du christianisme comme Origène. Origène voit bien que, il y a deux dimensions qui marchent ensemble, qu'on ne peut pas séparer. C'est-à-dire la dimension historique et la dimension théologique. Et il s'agit pour un exégète, si vous voulez, de déterminer d'abord quel est le sens spirituel qui traverse toute la Bible, parce qu'on ne peut pas séparer la Bible en morceaux. Les évangiles sont incompréhensibles sans l'enracinement dans l'Ancien Testament, mais pas seulement ça.
Il y a quelque chose de global, il y a un sens global.
Absolument, il y a une cohérence globale de l'Écriture sainte. D'ailleurs, pourquoi il y a Écriture sainte ? Il y a Écriture sainte parce qu'il y a le canon, ce qu'on appelle le canon des Écritures. Il y a d'abord eu un canon juif qui, peuple juif qui a déterminé quels étaient les livres qui rentraient dans la Bible, dans le grand livre. Et les chrétiens ont fait la même chose. Mais quel est le critère qui permet de dire que tel livre fait partie de la révélation et pas tel autre? Eh bien, le père Bouillet, dans son livre qui s'intitule Gnosis, dit que c'est l'usage liturgique. C'est l'usage liturgique qui détermine l'appartenance au corpus biblique. Donc, la réalité première, plénière de la Bible, c'est son sens spirituel, et pas n'importe quel sens spirituel, le sens spirituel qui se retrouve dans la cohérence de la révélation biblique. Et l'histoire est fondamentale, parce que nous l'avons vu précédemment dans des émissions précédentes avec Drewermann. Il est impossible de séparer le judaïsme et le christianisme de l'histoire, parce que ce sont les religions de l'histoire, comme l'a bien montré de Lubach. Et donc le sens spirituel d'Origène s'enracine déjà dans l'histoire. Mais l'histoire, n'a de sens, n'a de signification qu'à travers le sens spirituel. Vouloir séparer les événements du sens spirituel, c'est à la fois, échapper à la Bible et c'est tuer l'histoire. Oui. Vouloir séparer les évangiles de leur enseignement théologique, c'est tuer le fait historique dans son originalité. Si vous voulez, on a évoqué d'ailleurs la conception virginale.
Oui, vous en parlez.
Mais la conception virginale, on ne peut pas dire qu'il y a un sens spirituel de la conception virginale qui serait distinct du fait de la conception virginale. Les choses marchent ensemble, il n'y a pas une sorte de sens spirituel qui aurait été rajouté à la facticité banale de la vie de Jésus et de Marie, mais pas du tout. Si les évangélistes nous parlent conception virginale, c'est parce que ce fait historique est gros de la révélation.
Oui, alors Duquesne cherche des repères stables pour identifier ce que l'on veut savoir, et pour ça, donc il n'est pas exégète lui-même, il s'appuie sur les spécialistes.
Oui, bien sûr.
Il fait des lectures qui sont quand même orientées, choisies.
Ben oui, enfin, il a ses références à lui, mais il faut bien voir que le problème fondamental, c'est que Jacques Duquesne n'est pas exégète lui-même.
Voilà.
Et je le définis comme un documentalististe pugnace.
C'est ce que vous dites, exactement.
Un documentaliste pugnace qui, bien sûr, a travaillé, il a lu, etc., mais à mon sens, il est incapable de discerner ce qui est intéressant dans ses lectures, parce qu'il lui manque la formation de l'exégète. Et qu'est-ce que c'est que la formation d'exégète? C'est le contact du texte et c'est le retour continuel au texte. L'exégèse, ça n'est pas une discussion entre exégètes, mais c'est le retour sans cesse au texte. Donc, d'où la nécessité de toute une culture, évidemment, philologique, littéraire, etc. On ne s'improvise pas exégète. Or, le grand malheur, c'est que Duquesne s'est improvisé exégète et a prétendu trancher de problèmes qui lui échappent complètement.
Oui. Alors, Il reste comme ça sur le plan analytique et le détail, et il lui manque le projet global qui éclaire les textes. Vous dites à un moment donné le don poétique existentiel qui aurait pu le mettre en accord avec les recherches bibliques lui manque.
Oui, comprenez.
C'est comme quelqu'un qui voit un tableau par la qualité de la toile, par la chimie de la peinture, et qui ne sent pas l'œuvre en général.
Je crois qu'il y a une erreur de départ. Duquesne a dit, moi, la théologie, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux déterminer, c'est ce qui est historiquement certain. Hein, comment, ce qu'on peut dire de Jésus et que l'histoire nous affirme comme vrai. Et du même coup, sa recherche sera peut-être intéressante pour lui, mais en chemin, il va abandonner l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel? C'est la figure de Jésus. Jésus, sans sa profondeur théologique, sans son rapport permanent au Père, sans sa profondeur sotériologique, Duquesne efface toutes les notes théologiques de l'Écriture. Et qu'est-ce qui reste? Au terme, comme disait le père de Lubach, d'autres exégètes que Duquesne, de leur travail, il ne reste plus qu'un personnage éminemment conventionnel. Et en définitive, s'il fallait choisir entre ce Jésus-là et d'autres grands personnages de l'humanité, c'est pas certain que Jésus qui aurait la préférence, parce que Jésus a été arraché à son mystère profond. Et ce mystère profond, il est sans arrêt présent dans les évangiles, même Marc, qui est le plus narratif, si j'ose dire, ça n'est pas Jean, a fortiori Paul, eh bien, même dans Marc, qui est le plus narratif, il y a on est branché constamment sur le mystère de Jésus et de son Père, et sa mission. Oui. Sa mission, c'est orientologique. Or, là-dessus, sur la mission de salut de Jésus, Duquesne est complètement négatif.
Oui, vous dites il évacue le mystère de Jésus, mais ce que vous n'aimez guère aussi, c'est son ton goguenard, qui correspond pas au sujet. Je veux dire que...
Oui, c'est ça. La façon, là, je ne suis pas le premier à l'épingler. Le père Grelot a été très sévère à son égard. La façon dont il traite les évangiles de l'enfance, c'est comme s'il lisait un journal où on raconte les faits divers. Comprenez ? Et alors, qu'est-ce que c'est que les évangiles de l'enfance sous le regard de Duquesne ? Eh bien, c'est d'obscures tractations dans un village dont on comprend pas.
Ça s'est peut-être bien passé comme ça.
Comme ci, comme ça, etc. Histoire de racontard de commère, en définitive. Alors qu'il ne perçoit pas que dans les évangiles de l'enfance, on pas des textes légendaires, comme on dit, il y a déjà toute la révélation, ayant en particulier cette chose extraordinaire qui est le face-à-face de Jésus avec toute la profondeur de l'Ancien Testament. Anne et Siméon, la rencontre avec les docteurs au temple, Duquesne commence son livre là-dessus, enfin par les révélations, la rencontre de Jésus et des docteurs, et il prétend prendre le point de vue de Joseph et de Marie, dit-il, qui rentre pas dans ces grandes considérations des docteurs, etc. Il dit moi, ma tâche à moi, c'est de prendre l'humble point de vue de Joseph et de Marie et d'arracher Jésus à ses docteurs. Mais il ne voit pas le malheureux qu'il, du coup, faisant cette dichotomie, tout l'évangile lui échappe, et surtout Joseph et Marie, parce que Joseph et Marie sont d'humbles croyants, des Anaouim, ce qu'on appelle les pauvres de Dieu, qui participent à fond aux événements qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils sont dans l'attente du Messie. Ils vivent de façon extraordinaire les événements dont ils sont les acteurs et les témoins.
Alors, ce que vous lui reprochez aussi, ce sont ces raccourcis approximatifs qui sont pas du tout fondés, et vous dites ces contresens complets, ce que vous venez d'évoquer, en particulier vous parlez celui de la scène où il fait un espèce de texte joyeux, festif au sens premier du mot.
Oui, alors Duquesne, bon, alors c'est bon, si vous voulez,
Jésus glouton, ils vont casser la croûte.
Oui,
ils aiment bien manger.
C'est là ce qui est catastrophique dans Duquesne, si vous voulez. Bon, il essaye d'imaginer les choses en romancier, alors il met les choses en scène. Alors, il invente des dialogues qu'il n'a pas trouvés dans Saint Jean, par exemple. Pourtant, il y a les sublimes chapitres de Saint Jean sur la scène, le discours de Jésus, enfin, qui est le sommet. Enfin, Duquesne est complètement indifférent, etc. Alors, du coup, il invente des histoires que les apôtres seraient en train de se raconter sur les incidents qu'ils auraient eu avec les gardiens du temple, mais ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez, à un moment je dis que Duquesne aurait pu faire un travail intéressant s'il avait voulu décrire la Palestine du temps de Jésus, mais sans Jésus. Il aurait décrit le cadre historique, le temple, etc., les coutumes, les différentes strates sociologiques du pays. Il aurait pu nous intéresser. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas voulu seulement faire ça. Et ça, son talent de romancier aurait pu le servir. Mais dans la mesure où il veut vraiment nous parler de Jésus, alors il le trahit.
Oui. Et vous dites, quand il évoque un Jésus glouton qui va faire la fête d'un bon vivant, et vous dites que c'est la malveillance qui est érigée, en vérité.
Ben oui,
en vérité, terre à terre.
Il veut faire un Jésus proche des gens. Alors, ce Jésus proche des gens, il aime bien manger avec ses amis, ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai, il aime bien être avec des amis, il aime bien. Mais comment dirais-je
C'est pas le moment.
Cette façon de procéder, comment dirais-je, banalise Jésus de telle façon que Jésus va nous échapper. Enfin, c'est une réduction forcenée. Il va nous faire. Enfin, je vais employer peut-être un mot un peu fort, mais il va nous transformer Jésus en espèce de Falstaff shakespearien. À quoi ça ressemble ? Si l'on veut faire comprendre le mystère de Jésus, c'est pas par là qu'il faut passer. C'est vraiment par l'étude de fond des textes sublimes de Saint Jean, par exemple, au moment de la scène.
Et au sujet de l'Annonciation, ici de Roverman, et c'est quand même ce qu'il dit est assez grave, il y a des vérités inexprimables, sinon sous forme de sagas, de mythes et de contes.
Mais bien sûr, tout ce qui est essentiel, alors là, l'annonciation, la visitation, etc., sont des événements clés pour le salut. Tout est évacué au profit du mythe. Nous sommes dans la pure mythologie, nous sommes dans le rêve, et nous sommes dans le Grimm, dans le conte d'enfants. Eh bien, nous sommes hors de l'Évangile.
Alors nous allons nous reposer quelques secondes en écoutant Vivaldi.